L'atelier des médias, Ziad Malouf.
L'émission que vous allez entendre aujourd'hui est un petit peu particulière. Il s'agit d'un entretien avec Sébastien Dieguest, chercheur en neurosciences à l'université de Fribourg, en Suisse. Il est l'auteur d'un livre au titre intrigant, Total Bullshit. Oui, oui, vous avez bien entendu, Total Bullshit. Sous-titre, au cœur de la post-vérité. Il n'a pas été simple d'organiser notre rencontre avec Sébastien Dieguest en raison notamment de son agenda. À peine arrivé à notre lieu de rendez-vous, le jeune homme, barbu, affable, tout en modestie, m'a plu immédiatement. Nous avons échangé quelques civilités, je lui ai expliqué le principe de cette émission et il a commencé immédiatement à parler. J'ai allumé par réflexe mon enregistreur et suis resté accroché à ses paroles pendant plus d'une heure.
On parle beaucoup de fake news, de post-vérité, de propagande, de mensonges. Et naturellement, ça soulève beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut rééduquer les gens? Est-ce qu'il faut leur apprendre à lire l'info correctement, à vérifier les sources? Est-ce que chaque citoyen doit faire le travail du journaliste, en somme, lui-même, à l'école? Est-ce qu'il faut réintégrer un peu la notion d'esprit critique? Ce que l'éducation était aussi censée faire. Et donc, l'idée pour moi, c'était de prendre un peu du recul en tant que chercheur en psychologie, en neurosciences, mon idée c'était de saisir un peu quels sont les enjeux derrière tout ça, quoi. Pourquoi les gens finalement se font avoir, d'autres cherchent à manipuler les autres, et qu'est-ce qu'il y a là derrière, on va dire de manière plus large, quoi, plus naturelle, quoi, sortir des réseaux sociaux, Facebook et tout ça pour aller voir ce qui se passe dans la tête des gens au final, puisque c'est là que ça se passe.
Total Bullshit, c'est le titre du livre que signe Sébastien Dieguest aux Presses universitaires de France. C'est aussi celui de cette émission signée Simon de Creuse et Ziad Malouf pour l'atelier des médias de RFI. Bonne écoute à vous.
Le titre, en fait, souligne que y a du bullshit, il y en a partout. Et qu'il y en a beaucoup. Mais Total Bullshit veut aussi dire que c'est la... un peu de manière prétentieuse, hein, que j'ai réalisé la somme totale des connaissances sur le bullshit. Donc à la fois il y a beaucoup de bullshit et il y en a partout, mais aussi le titre renvoie à l'idée que j'ai réalisé en quelque sorte la somme totale des connaissances actuelles sur le bullshit. Parce que le terme bullshit, c'est un terme plutôt vulgaire anglo-saxon qui renvoie à tout ce qui est mensonge, foutaise, baliverne, connerie. Il y a beaucoup de manières de le traduire, aucune vraiment satisfaisante. C'est pour ça que j'ai gardé bullshit, parce que c'est devenu maintenant un terme technique. Donc je retrace l'histoire de ce concept qui a été avancé par un philosophe qui s'appelle Harry Frankfurt, au milieu des années 80, où il se demandait quelle est l'essence en fait du bullshit, quoi. Et son idée du bullshit, c'est que c'était une forme de discours qu'on devait distinguer du mensonge. Pourquoi ? Parce que le menteur, certes, il dissimule la vérité, ou il la manipule, il la change, mais en faisant ça, il respecte la vérité, il la tient littéralement en respect en quelque sorte, parce qu'il doit se rappeler de ce qui est vrai, de sorte à le dissimuler et à pas le révéler à ses cibles. En fait.
Il tient compte de la vérité, il est obligé de la connaître, quoi, pour mentir.
Exactement. Par définition, le menteur doit savoir la vérité, parce que les gens peuvent se tromper, ils peuvent dire des choses absurdes, mais pas nécessairement intentionnellement. Et ils peuvent penser qu'ils sont dans le vrai et qu'ils sont dans la vérité. Pour mentir, vous devez savoir ce qui est vrai et vous devez dire autre chose.
Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
Le bullshitter, il n'a pas du tout ce problème-là, parce qu'il ne se soucie pas de la vérité. C'est ça la contribution d'Harry Frankfurt. Il dit qu'il y a une manière de parler, une manière de produire des énoncés qui est ni la vérité, ni du mensonge, qui est en fait une indifférence à l'égard de la vérité. C'est-à-dire que le bullshitter peut dire la vérité, il peut dire des choses fausses, mais ça n'a aucune différence pour lui, parce qu'il s'en fiche, il dit ce qu'il arrange. Pour plusieurs raisons, généralement pour noyer le poisson, pour se faire mousser, pour faire croire à ses interlocuteurs que c'est quelqu'un d'intéressant et de profond. Voilà, il y a tout un tas de raisons de bullshiter qui vous dispensent en fait d'avoir à mentir. Et c'est très pratique, c'est très utile, parce que mentir, c'est dangereux, on peut vous coincer. la police, un journaliste, votre femme peut découvrir que vous avez menti. Et à ce moment-là, les choses se corsent pour vous parce que c'est déjà mal de mentir, mais c'est pas le mensonge en tant que tel qui pose problème, c'est plutôt la trahison de la confiance que les gens mettent en vous, que vous trahissez, que vous mentez. Parce que pour mentir, vous devez faire semblant d'être sincère. Et c'est ça qui dérange fondamentalement dans le mensonge. Pour éviter ça, il suffit de bullshiter, c'est-à-dire de dire n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête. Personne ne pourra vous reprocher de l'avoir fait exprès, et de l'avoir fait sciemment, en quelque sorte.
Juste quelques précisions. Quand Harry Frankfurt a publié à la base, ce qui était un article en 1985, donc c'était en plein milieu des années Reagan. Certaines personnes ont pensé que c'était une sorte de blague, quoi, une plaisanterie. D'ailleurs, même quand vous en parlez, on se demande si vous êtes au premier ou au second degré. Mais Harry Frankfurt, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Et même s'il y avait une petite intention de plaisanterie dans ce titre d'essai, donc On Bullshit, à propos du bullshit ou sur le bullshit ou du bullshit, si on prend un titre à l'ancienne, l'essai était éminemment sérieux et il y a véritablement une tentative de définir et de comprendre ce qu'est le bullshit.
C'est ça, ouais. La force de l'essai, c'est que, en proposant une distinction forte entre le mensonge et le bullshit, ça ouvrait vraiment une piste de recherche sur la manière que les gens ont d'interagir et leur rapport à la vérité et à la connaissance. La vérité, c'est un concept déjà un peu tordu en philosophie. Est-ce que ça existe? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la réalité? Beaucoup de gens ont pensé que le concept de bullshit aidait au fait à y voir plus clair dans ces discussions-là, notamment avec cette idée qu'on peut être indifférent en fait à la vérité. On peut faire autre chose que de chercher la vérité ou que de chercher à la cacher ou à l'éviter. On peut aussi s'en foutre. Donc c'est une nouvelle catégorie à la fois philosophique et psychologique qui était digne d'intérêt. Donc vous avez raison de dire qu'il y avait un contexte politique et social au moment où ça a été fait.
Il y a même, permettez-moi de préciser, il y a même finalement trois contextes dans cette histoire. Parce qu'il y a l'époque où la conférence puis l'article ont été publiés, donc de Harry Frankfurt, c'était les années Reagan, 1985. Il y a eu ensuite un regain d'intérêt pour ce sujet au moment des années Bush Junior, juste après la supercherie des armes de destruction massive et l'attaque contre l'Irak. L'article a été publié sous forme d'essai isolément en 2005, je crois. Et le troisième temps, c'est un petit peu aujourd'hui. C'était le temps où vous décider de parler de ce sujet, le faire connaître à un public francophone qui l'ignore largement. Et là, on est en plein milieu des années Trump, voilà. Qui est peut-être l'incarnation la plus forte du personnage du bullshitter, quoi.
Oui, bah exactement. C'est ça qui est très intéressant. Où l'idée que Bush était un bullshitter et que ces histoires d'armes de destruction massive, c'était un peu du flan. Mais peut-être que lui, il y croyait un peu. Mais peut-être bien qu'en fait, il s'en fichait complètement et que voilà, il disait des choses sans égard pour ce qui est la vérité ou sans effort en fait pour la chercher. Rétrospectivement. Ça semble bien, en fait, gentillet. Quand on repense à ces années-là, voilà, le 11 septembre, l'invasion de l'Irak, les armes de destruction massive, tout ça. Évidemment, c'était un temps fort de notre mémoire. Mais aujourd'hui, il semble vraiment qu'on soit vraiment passé à toute autre chose et que l'idée originale de Frankfurt trouve en fait sa meilleure expression aujourd'hui. Parce que ce qu'on a reproché en fait à Bush et à ses camarades et à Tony Blair et à bien d'autres, c'est de tout simplement mentir en fait, de mentir au public, de mentir à leur peuple. Est-ce que Trump ment véritablement aux gens? Est-ce qu'il a menti pour se faire élire? Alors oui, on sait qu'il ment tout le temps. Mais quand vous avez quelqu'un qui ment constamment et qui en fait change en cours de route ses mensonges, on ne peut pas reprocher ça à Bush et à Tony Blair. Ils se sont tenus à une idée particulière qu'il s'agissait de faire avaler aux gens. Trump, c'est pas tout à fait ça. Il dit quasiment n'importe quoi, tout ce qui lui passe par la tête sur le moment. Et même si c'est faux, bon, il va certainement pas s'excuser, mais il va pas insister non plus. Il va passer à autre chose. Ça paraît quand même une distinction qui relève plus fortement du bullshit que ce que Harry Frankfurt imaginait quand il a écrit son texte. Donc, voilà, avec le temps, quasiment 30 ans après l'avoir écrit, moi, il m'a semblé qu'il prenait toute sa force aujourd'hui.
What's the difference between a wet raccoon and Donald J. Trump's hair? A wet raccoon doesn't have $7 billion fucking dollars in the bank.
Plus by a lot.
Donc il y a vraiment eu une sorte de glissement dans ce que certains maintenant appellent, et qu'on appelait déjà à l'époque, une forme de post-vérité, une période où en fait la vérité n'a plus de valeur, n'a plus d'intérêt. Ce qui compte, ce sont les objectifs, c'est le spectacle, des choses comme ça, et la vérité est une chose comme une autre.
Vous avez des gens qui disent ce concept de post-vérité, il est un peu bidon parce qu'on n'a jamais eu la vérité et que la vérité. Et donc, il n'y a pas de raison de penser qu'avant, on était bien informé, on était dans le vrai et nos dirigeants nous respectaient et nous disaient ce qui est vrai. Tandis que maintenant, on est passé à totalement autre chose et maintenant, on nous ment, on nous manipule. Non, n'importe qui s'intéresse à l'Antiquité romaine au Moyen-Âge ou à n'importe quelle autre époque. On a Machiavel, on a beaucoup d'autres auteurs qui ont quasiment théorisé ça depuis vraiment très longtemps. Mais je pense quand même que le terme, le concept de post-vérité, donc, qui a vraiment émergé dans les années 90, qui est maintenant triomphe en quelque sorte, puisqu'il a été élu mot de l'année en 2016.
Le dictionnaire d'Oxford, c'est ça
ouais. C'est ça, le dictionnaire d'Oxford, qui ont analysé la chose, et on peut constater dans des bases de données, etc., qu'effectivement le terme est beaucoup plus utilisé, et que le mot post-vérité, suite à quelques articles plutôt influents, a fini par prendre, et tout le monde a commencé à parler de post-vérité. Ça commence à ressembler effectivement à une mode. Et même s'il y a eu toujours des mensonges, et même s'il y a un effet de mode, ça ne veut pas dire que le concept n'a aucun intérêt. Moi, je pense qu'il a un intérêt au vu de l'évolution récente, du type de manipulation dont on peut être victime, qui sont très différentes de la propagande à l'ancienne. La propagande à l'ancienne, c'est une arme coûteuse qui demande d'imposer une certaine vérité à la totalité d'un peuple ou des individus de telle ou telle localité. Il y a toujours ça, hein. C'est pas comme si le mensonge avait disparu, comme si la propagande d'État ou toute autre forme de propagande avait disparu. Mais enfin, maintenant, vous avez de la compétition sur ce terrain-là, parce que vous avez le marketing, les relations publiques, la publicité. Bref, il y a un essor d'individualisme qui fait que chacun peut être porteur de sa propre propagande. Chacun peut, en démocratie, en tout cas, peut s'opposer à ce qu'il considère être de la propagande, il peut critiquer ce qu'il considère être comme des mensonges. Donc c'est plus aussi facile qu'avant, si on veut, de manipuler et de tromper les gens et de faire disparaître tout simplement les dissidents ou de les emprisonner. Ça existe encore, bien entendu. Mais en démocratie, c'est plus tellement possible, ou en tout cas c'est moins facile. Mais vous pouvez faire autrement. C'est là que je pense que la post-vérité est une forme insidieuse et à certains égards peut-être pire que la propagande à l'ancienne, qui est comme le mensonge. On peut penser que les gens qui produisent la propagande savent quelle est la vérité, ils savent qu'ils sont en train de perdre la guerre, ils savent que ça va mal. La post-vérité, ce qui se produit, c'est une technique de la confusion. Plutôt que d'imposer une vérité qu'on souhaiterait que les gens avalent et tiennent pour vraie, on multiplie les vérités. C'est pour ça que le terme « fait alternatif » était très frappant, était très bien trouvé par une collaboratrice de Trump. Quand on la soumettait aux contradictions de Trump, il disait « mais non, il a dit ça, et puis c'est pas vrai ». Il disait « oui, mais vous avez vos fêtes, mais il y a d'autres fêtes, c'est les fêtes alternatives ». Si vous multipliez les fêtes alternatives, si vous multipliez les vérités, si vous multipliez
les dimensions dans lesquelles les gens vivent pratiquement, en fait.
Exactement. Et en plus, si vous jouez sur les oppositions et les différences entre les gens, donc encore une fois, diviser pour régner, c'est une vieille technique, mais maintenant, vous pouvez diviser quasiment au niveau de l'individu lui-même. Vous pouvez monter les gens les uns contre les autres quasiment à l'unité, en quelque sorte.
Presque hébéter les gens.
Voilà, il y a un état de stupeur qui est créé comme ça, qui fait que ça devient presque incongru de réclamer la vérité, puisque l'effet que produit la post-vérité, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs programmé et prévu théoriquement d'en haut comme ça, là on serait plus proche de la théorie du complot, je ne pense pas que ça marche exactement comme ça. C'est plutôt un phénomène structurel qui est dont c'est difficile d'identifier les causes. Mais comme je disais, ça devient presque incongru de se demander et encore plus de réclamer la vérité quand on fait en sorte que chacun soit heureux avec la sienne finalement. Et que si quiconque vient proposer d'autres faits ou une autre vérité, cette personne ne sera pas perçue comme... Un congénère ou un argumentateur qui vient proposer autre chose, mais en fait comme un ennemi qui s'oppose à ma manière de voir les choses et qui par le seul fait d'apporter de la contradiction m'offense. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, ça veut dire qu'il ne me prend pas au sérieux et qu'il ne respecte pas mes préférences et ma manière de voir les choses. Si vous parvenez à établir un tel état d'esprit à grande échelle, je pense que ça produit quelque chose comme la post-vérité où chacun est libre d'avoir ses opinions. Ce qui est évidemment une bonne chose, mais du moment que cette conception de la liberté et de la démocratie devient une sorte de dogme, une sorte de norme, d'interaction, eh bien vous avez chacun qui vit dans, comme on dit aujourd'hui, dans sa bulle, dans son univers à lui, qui est inviolable en fait. C'est irrespectueux de dire aux gens ce qu'ils devraient penser, et en plus de ça c'est suspect. Si quelqu'un vient s'opposer à mon point de vue, c'est probablement qu'il a des idées en tête et qu'il cherche à me manipuler et à avancer ses propres intérêts. Donc à la fois un environnement très confus, beaucoup de chaos informationnel comme ça, à la fois un peu narcissique, tout le monde tient pour acquis ses préférences et ses croyances, avec un peu de paresse aussi, où on ne cherche pas à s'extraire de son propre point de vue, et ben je crois que c'est ça la post-vérité globale.
I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. I remember the fact that he has invaded two countries before. I know for a fact that he's poisoned his own people. He doesn't believe in the worth of each individual. He doesn't believe in public dissent. I look forward to a dialogue.
The truth is that I haven't shook my shadow, and every day is trying to trick me into doing battle. Calling out fake up, wanna get me rattled. Wanna pull me back behind the fence with the cat. Building your lenses, digging your trenches. Put me on the front line, leave me with a dumb mind with no defenses, but your defenses. If you can't stand to feel the pain, then you are senseless, senseless. I've grown up some different kind of fire. And when the darkness comes, let it inside you. Your darkness is shining. My darkness is shining. Have faith in myself.
RFI. Vous écoutez l'Atelier des médias. Nous sommes cette semaine avec le chercheur en neurosciences Sébastien Dieguès, auteur du livre Total Bullshit aux presses universitaires de France.
Je pense que c'est très important de situer le bullshit dans la vie de tous les jours, dans la manière dont il est utilisé. Enfin, Frankfurt s'intéressait au bullshitter, en fait, à la personne qui produit du bullshit. Et qu'est-ce que ça veut dire pour elle de faire du bullshit? Mais pour bullshiter, il faut un récepteur aussi. Il y a des gens qui reçoivent ce bullshit et qui l'acceptent et qui le confondent pour quelque chose d'intéressant. En gros, des gens qui se font avoir. Le chapitre en question s'appelle Gogo et Gourou. Donc, voilà, quoi. Donc, vous avez des gourous qui sont des producteurs de bullshit, mais il leur faut aussi des personnes suffisamment crédules pour se figurer que ce bullshit est autre chose que du bullshit. Et là, je pense que ça commence à devenir vraiment intéressant. Parce que effectivement, c'est au cœur de la communication que le bullshit se situe, avec ce paradoxe assez étonnant en fait, et d'une certaine manière assez rassurant, c'est que le bullshitter ne sait pas de quoi il parle, mais ça l'empêche pas d'en parler. Et il se fiche de ce qui est vrai ou de ce qui est faux. Il se fiche de savoir s'il ne devrait pas quand même un peu réfléchir un peu ou travailler avant de se prononcer sur quelque chose. Mais en même temps, pour faire passer son message, il lui faut quand même faire croire qu'il sait de quoi il parle. Il lui faut se montrer comme quelqu'un de fiable et de sérieux. C'est pour ça que je dis que c'est rassurant, parce que ça montre quand même qu'au cœur de la communication, on estime que les gens doivent savoir de quoi ils parlent, sans quoi ce serait des bullshitters. Donc tout le travail du bullshitter, c'est de se faire passer pour quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et comment il fait ? Il y a des techniques pour ça, mais c'est pas si difficile dans le fond, parce que dans la communication ordinaire, il y a ces règles tacites qui font qu'on, si on nous parle, on suppose que c'est pour nous dire quelque chose d'intéressant, être pertinent pour nous. Et on suppose que la personne, non seulement dit la vérité, ce qui est quand même la moindre des choses, mais qu'en plus de ça, elle a des raisons de nous dire ce qu'elle dit, qu'elle ne parle pas pour rien dire. Donc, puisqu'on est favorablement disposé à accepter ce que les gens nous disent, dans la littérature en linguistique, on dit qu'on est charitable à l'égard des énoncés. Si quelqu'un vous dit quelque chose que, en fait, vous ne comprenez pas vraiment, vous êtes charitable dans le sens où vous allez quand même chercher à savoir ce que ça peut bien vouloir dire. C'est du pain béni pour le bullshitter, parce qu'en quelque sorte, c'est l'auditeur qui fait tout le boulot à sa place. Et c'est comme ça que fonctionnent les gourous, en fait. Ils disent des choses profondes et obscures et incompréhensibles, mais c'est bien parce qu'elles sont incroyablement importantes que vous devez faire l'effort d'aller chercher à savoir ce que ça peut bien vouloir dire.
D'où l'idée aussi de réputation qui rentre en compte, c'est-à-dire n'est pas gourou qui veut et ne n'incite pas les gens à comprendre eux-mêmes qui veut. Donc il faut avoir été valorisé d'une manière ou d'une autre, avoir une réputation ou des certaines choses dans sa biographie qui font que les gens se disent non, mais ce type est nécessairement d'une certaine manière sérieux.
C'est particulièrement le cas pour ce qu'on appelle les gourous intellectuels. Les gourous intellectuels procèdent par intimidation. Ils disent des choses qui sont très compliquées, qui sont très obscures, qui sont très ardues comme ça. Et je n'y comprends rien. Mais c'est bien la preuve que c'est quelque chose d'incroyablement important qu'il va me falloir détricoter. Et donc, le disciple du gourou devient en quelque sorte un apprenti gourou lui-même. Il doit apprendre à trouver du sens et de l'intérêt dans des choses qui n'en ont pas. Ça marche avec l'obscurité comme ça, mais ça marche aussi avec des platitudes. Il y a des choses très, très amusantes. Vous pouvez faire des sketchs là-dessus. Quand le gourou dit quelque chose de parfaitement banal, j'ai plus de lait, il faudrait que j'aille faire des courses aujourd'hui. Ça prend tout d'un coup une importance monumentale aux yeux de ses disciples. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Quelle est la signification profonde de ces énoncés ? À partir du moment où vous avez la réputation de quelqu'un de prodigieusement intéressant, tout ce que vous allez dire sera reçu comme ça de la part des gens qui sont disposés à y accorder de l'intérêt. Donc oui, la réputation est très importante pour quelqu'un qui veut faire carrière de bullshitter.
Votre livre, Sébastien Dieguez, se termine sur deux chapitres qui sont plutôt des chapitres d'études de cas. Le cinquième est une prise de position de votre part autour du concept de théorie du complot. Je vous propose d'écouter un extrait d'une émission qu'on avait consacrée à ce sujet, au complotisme, à la complosphère française, fin 2015 dans l'atelier des médias, et de réagir par la suite et d'expliquer ce que vous exprimez ou ce que le livre dit des théories du complot. Donc cette émission, ce passage de l'émission, c'est un moment où donc on a décidé de donner la parole à Reopen 9/11, Reopen 9/11, donc qui est une organisation considérée par des spécialistes de la complotosphère comme complotiste autour des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Et donc, il y avait un dilemme au sein de l'émission. Est-ce qu'on doit donner la parole à des complotistes ou des gens perçus comme des complotistes quand on fait une émission sur la complotosphère ? Et voilà, on écoute.
Donc Reopen 911, c'est une association d'information sur les attentats du 11 septembre. C'est un peu comme pour l'assassinat de Kennedy, ou pour l'attentat de Karachi, ou pour d'autres affaires de ce type. On s'est rendu compte qu'il y avait des zones d'ombre importantes et qui justifiaient d'étudier plus en avant cette affaire. Et en fait, on estime qu'il faudrait faire à terme une enquête approfondie sur les attentats du 11 septembre. Sur l'an septembre, il y a ce qu'on appelle la thèse officielle, c'est-à-dire les explications données par l'administration américaine. Et ces explications ne nous ont pas convaincus, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été démontrées. Que ce soit des aveux obtenus sous la torture ou que ce soit un passeport retrouvé un peu miraculeusement au pied des tours, on estime que ce ne sont pas des preuves suffisamment solides pour démontrer la thèse officielle. Cette thèse n'ayant pas été démontrée, on estime utile, nécessaire et indispensable qu'il soit procédé à une enquête approfondie afin qu'on sache ce qui s'est passé le 11 septembre.
Reopen 911 a été présenté par plusieurs médias et aussi par le site Conspiracy Watch, bien entendu, comme étant un site complotiste ou conspirationniste. Vous pensez quoi de ces adjectifs ?
C'est l'argument habituel. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a de la rage, et quand on veut discréditer celui qui se pose des questions, on traite de complotiste. Ça ne veut bien évidemment pas dire qu'il n'existe pas des gens obsédés, paranoïaques, qui voient des mensonges sur chaque événement. Mais il faut savoir dissocier complotisme du scepticisme. Et comment le faire ? Eh bien, il faut étudier chaque sujet, étudier les zones d'ombre et voir si elles sont importantes ou pas, s'il est justifié ou non de se poser des questions. On a remarqué que ceux qui défendent la thèse officielle ne vont pas dire qu'ils défendent la thèse officielle, ils disent qu'ils luttent contre des théories du complot sur le 11 septembre. Et en fait, en disant ça, ils reconnaissent qu'eux-mêmes, que leur thèse, ils ne sont pas capables de la démontrer. D'ailleurs, quand on leur pose la question, ils sont incapables d'expliquer pourquoi ils croient à la thèse officielle, à part d'expliquer qu'elle est répétée en boucle dans tous les médias depuis 14 ans, donc c'est que ça doit être la bonne. Mais quand on leur demande des preuves, ils ne sont pas capables d'en donner. Et en fait, c'est une façon de demander aux sceptiques de démontrer que la thèse qu'ils ne défendent pas serait bonne, ce qui n'a aucun sens, puisque n'ayant aucune thèse, on ne peut pas avoir de preuves pour démontrer la thèse qu'on n'a pas.
Donc il semblerait que vous soyez plutôt du genre à aller vers les médias plutôt qu'attendre que les médias viennent vers vous. Pourquoi ?
Parce qu'on aimerait que les médias donnent davantage la parole à des sceptiques. On a un peu l'impression que la parole est souvent monopolisée par des personnes qui défendent la thèse officielle, sans jamais la démontrer, mais plutôt en expliquant que ceux qui ont des doutes ne sont pas rationnels. Donc on est bien évidemment demandeur, on peut proposer des experts de différents domaines qui seraient ravis de pouvoir s'exprimer, et c'est l'objet de l'association de faire en sorte de médiatiser ce débat, et bien évidemment que ça passe par des grands médias, comme c'est déjà arrivé par le passé, et comme ça va continuer à se passer, si possible, de plus en plus souvent.
Sébastien Dieguès, on est toujours avec vous, auteur de Total Bullshit. Votre chapitre 5 s'intitule « Études de cas, les théories du complot n'ont jamais existé ». C'est pour cette raison que je souhaitais vous faire entendre ce témoignage qui résonne assez bien, je pense, avec ce que vous expliquez dans ce chapitre de votre livre.
Oui, c'est effectivement un sujet assez complexe et où il y a beaucoup de confusion. Donc moi j'ai essayé d'apporter un peu quelques clarifications là-dedans. Et évidemment, de dire que les théories du complot n'existent pas, bon, c'est un petit clin d'œil avec tel ou tel événement ne s'est pas produit, tel ou tel attentat ne s'est pas produit. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là exactement ? Bien, dans l'extrait qu'on a entendu là, effectivement, on n'a pas entendu de théorie du complot à proprement parler. On n'a certainement pas entendu une théorie particulière, peut-être vaguement une hypothèse sur le fait que telle ou telle thèse officielle ou version officielle, comme les complotistes disent, qu'elle n'est pas satisfaisante. Mais on n'a pas entendu une théorie particulière sur ce qui s'est produit, en l'occurrence là pour les attentats du 11 septembre, et par qui ça a été produit, donc quel a été le complot exactement. Sur ces points-là, de manière assez étonnante, les complotistes sont relativement évasifs. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a ni théorie ni complot dans les théories du complot, et que donc les théories du complot n'existent pas. Tout ce que vous avez, c'est quelqu'un qui... c'est des gens qui se disent insatisfaits par telle ou telle explication, et qui déclare se poser juste des questions et demander qu'on jette toute la lumière sur tel ou tel événement.
Et ce que vous dites, du coup, c'est que soit les personnes ont des informations alternatives qu'elles peuvent donner, et dans ce cas-là, ça ne sont pas des théories du complot, mais des informations, soit, en gros, quand on parle de théorie du complot, en gros, il n'y a jamais de théorie, ça veut dire qu'il n'y a que des personnes sceptiques qui vont à chaque fois prendre la parole, douter de telle chose, et jamais apporter de contre-vérité ou d'informations alternatives. Donc, pas de théorie, et pas de complot, puisqu'il n'y a rien d'exposé, jamais.
Alors, il y a beaucoup de variétés dans cette théorie du complot. Vous pouvez avoir des gens qui disent « Moi, ça, j'y crois pas, il faut que quelqu'un fasse une enquête sérieuse. Bon, » très bien, donc que quelqu'un fasse le boulot, quoi. Mais pas eux, bien entendu. Vous avez ceux qui disent « Moi, j'ai enquêté là-dessus et je constate des zones d'ombre. » Mais généralement, c'est des, voilà, quoi, des points de détail et effectivement des zones d'ombre. Moi, personnellement, donc Sébastien Dieguez, il y a tout un tas de choses sur lesquelles j'aimerais en savoir plus. Parce que oui, des zones d'ombre, il y en a tout le temps partout, et on pourrait réclamer plus d'informations, on pourrait réclamer une enquête supplémentaire, en fait, sur tout, quoi. Je suis chercheur, je suis scientifique, ça s'arrête jamais, la science. Quand vous avez découvert un truc, ça soulève tout de suite une dizaine d'autres questions qu'il va falloir investiguer et poursuivre comme ça. Donc, mettre le doigt sur la vérité ultime dans beaucoup de domaines, c'est quelque chose qui relève du fantasme et qui en fait est généralement impossible, en particulier quand on vise pas un but précis. Si vous avez un enquêteur soupçonneux qui voudrait savoir qui a véritablement tué Kennedy, par exemple, il peut effectivement faire une enquête. Beaucoup d'investigateurs amateurs, mais aussi des journalistes chevronnés, se sont lancés là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de théories sur qui a véritablement assassiné Kennedy et pourquoi. C'est pas nécessairement des théories du complot, parce que si vous faites une grande enquête, puis vous sortez un livre ou un film, vous avez une thèse précise, avec vous accusez quelqu'un en particulier et vous apportez vos arguments pour ça, même s'ils sont mauvais, vos arguments, je dirais pas que c'est nécessairement une théorie du complot, parce que, paradoxalement, parce que pour le coup, vous avez une théorie et vous avez identifié un complot, un ou des coupables. C'est votre thèse et vous la présentez et c'est votre droit. Ce qui caractérise la théorie du complot, c'est justement qu'il n'y a ni théorie ni complot, ce qui laisse ouvert un champ infini à une quête totalement stérile, en fait. C'est ça qui caractérise le complotisme, à mon avis, et je pense que c'est particulièrement net pour les gens qui gravitent autour du 11 septembre.
Justement, pour revenir à cette idée, vous expliquez vraiment très bien que finalement, théorie du complot, c'est quelque chose de péjoratif, dont personne ne se réclame, et que par définition, puisqu'il n'y a jamais de théorie et que les complots ne sont jamais démontrés, mais juste il y a du soupçon, ça n'existe pas. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de tort, et peut-être, j'ose le mot, de bullshit, de la part des personnes qui utilisent et abusent de cette expression, finalement, parce qu'elle contribue au fait qu'elle se répand et au fait que ce concept creux, finalement, est adopté et pensé comme quelque chose de valable, alors qu'en fait, vous le montrez très simplement, les théories du complot, ça n'existe pas, c'est du bullshit, du point de vue de ceux qui les défendent, mais aussi du point de vue de ceux qui utilisent cette expression, parce qu'il n'y a ni théorie ni complot.
Oui, moi je suis d'accord avec ça. Et quand je dis que les théories du complot sont du bullshit, c'est après avoir exposé le concept technique de bullshit assez longuement. En particulier parce que la théorie du complot postule à la fois une intention, mais aussi un secret. Et une intention secrète. Donc vous ne mettrez jamais le doigt sur une intention secrète, en particulier si vous postulez un conspirateur quasiment divin, qui a des ressources illimitées, toute puissance. Il pourra toujours enfumer son entourage et vous amener sur une mauvaise piste. Donc vous ne pouvez pas mettre la main sur une entité pareille qui est quasiment mythologique, quoi.
Parce que l'intention, déjà, c'est quelque chose de difficile à définir. Et puis, même, sommes-nous maîtres de nos propres intentions, donc voilà. Et le secret, par définition, c'est aussi quelque chose qui est difficile à savoir. Donc le mélange de ces deux choses rend la quête quasi impossible systématiquement, quoi.
Et c'est encore mieux que ça, c'est qu'elle garantit en fait votre immunité totale face aux critiques et vous permet de continuer votre pseudo-investigation ad aeternam, puisque en fait tout ce qui peut arriver peut être reformulé sous les termes du complot et d'une intention secrète. Donc, le résultat de tout ça, c'est que oui, vous êtes mis, en tant que complotiste, dans une situation où il n'y a absolument pas moyen de révéler la vérité. Et vous vous arrangez, en fait, pour qu'il n'y ait aucun moyen de la révéler. Au cas où quelque chose entre en contradiction avec votre approche, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du complot, vous pouvez la réinjecter dans un nouveau complot de plus en plus grand, de plus en plus énorme, dont les coupables sont de plus en plus cachés, de plus en plus secrets, de plus en plus puissants et de plus en plus distants. Et vous ne mettrez jamais la main sur ces gens-là. C'est très différent d'une enquête normale où même si vous dites n'importe quoi et vous vous trompez, au moins vous dites, voilà quoi, Emmanuel Macron est responsable de la mort de mon chien, quelque chose comme ça. Au moins vous avez identifié le coupable, vous avez peut-être décortiqué un peu la nature du complot, c'est-à-dire la manière dont Emmanuel Macron s'y est pris pour faire tuer votre chien. Et vous avez quelque chose qui en reste là, en quelque sorte. La théorie du complot n'en reste pas là, elle s'étend. Et c'est bien ce qu'on observe en fait dans les données empiriques dont on dispose, parce que je fais aussi de la recherche sur la psychologie des théories du complot. On peut interroger les gens, développer des hypothèses, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens qui s'intéressent à une théorie du complot en particulier s'intéressent aussi beaucoup à d'autres théories du complot, et théories du complot ont tendance à s'agglomérer dans une sorte de vaste confusion où tout s'enchaîne, tout est lié, comme ils disent, et tout commence à faire sens à la lumière de cette idée que quelque chose de délibéré, mais de secret, opère dans les coulisses.
Votre chapitre conclusif, qui est le sixième chapitre de votre livre Total Bullshit, Sébastien Diéguez, s'interroge sur le concept de post-vérité. On l'a évoqué rapidement en début d'émission. Ce chapitre s'intéresse évidemment à un phénomène que vous n'abordez finalement que à la fin de votre livre, et qui est un phénomène auquel on pense immédiatement dans votre quand on tient votre livre en main, qui est celui des fausses informations, de la désinformation, dont on a beaucoup parlé à la faveur des dernières élections américaines et avant de l'élection pour le Brexit. Ce qu'on appelle malheureusement d'un terme anglo-saxon, enfin d'une locution anglo-saxonne, fake news, mais qui est donc la circulation facilitée de fausses informations. Je suis allé voir Samuel Laurent, qui s'occupe des décodeurs, donc cette unité de vérification de faits, de fact-checking du journal Le Monde, pour lui demander, lui, quelle vision il a de ce concept de fake news, de fausse information. Et je pourrais aussi le dire de cette manière, si à ses yeux c'est un concept valable ou si ça peut rentrer dans la catégorie du bullshit.
Nous, on a dit très régulièrement, et depuis que le mot est un peu apparu dans le discours public, c'est-à-dire après l'élection de Trump fin 2015, on a dit très très régulièrement, arrêtez d'utiliser ce concept, c'est un concept piège, c'est un concept dangereux, qui mélange totalement des choses qui sont, d'un côté, des informations qui sont intentionnellement fausses et qui sont diffusées dans un but précis, d'un autre côté, du mauvais journalisme ou du mauvais rédactionnel de contenu, d'un troisième côté, tout un tas de choses. Bref, c'est un concept extrêmement flou qui ne peut que se retourner contre le journalisme. C'est précisément ce qui s'est passé avec Trump, qui en deux minutes l'a retourné contre CNN et le New York Times, accusés d'être les premiers fournisseurs de fake news. C'est un concept qu'on découvre aussi en France avec tous les politiques à peu près de la place qui désormais, quand il y a un article qui leur plaît pas, disent fake news comme des cabris. Et voilà, on a crié un peu dans le désert, arrêtez d'utiliser ce terme, c'est un mauvais terme et c'est un mauvais concept de toute façon à la base.
Pourquoi c'est un mauvais terme? Pourquoi c'est un mauvais concept?
Alors pourquoi c'est un mauvais terme? Parce que fake news, ça veut dire littéralement nouvelle fausse. Une nouvelle, elle peut être fausse parce que j'ai écrit quelque chose de faux de manière intentionnelle, parce que je fais de la propagande et que je veux mentir pour faire avancer mes idées. Je peux aussi écrire quelque chose de faux parce que je me suis trompé. Je peux écrire quelque chose de faux parce que je me suis fait avoir par une source qui m'a dit quelque chose. Je peux écrire quelque chose qui était vrai à un instant T puis qui n'est plus à un autre moment. Tout ça, ce seront des nouvelles fausses. Mais l'origine de ces nouvelles fausses n'est pas du tout la même. Et c'est pas du tout pareil d'être le fameux fantasme du hacker russe qui est en train de fabriquer des fausses nouvelles pour influencer une élection, qu'un journaliste qui fait une erreur ou qui va trop vite, qu'un site qui diffuse une information mauvaise, pas parce qu'elle est vraie ou fausse, mais juste parce qu'elle fait du clic, qui est l'ordinaire en fait de ce qu'on appelle fake news dans le discours public, qui est en fait pour moi de la mauvaise information dans ce cas-là. Et je pense qu'on ne distinguant pas la propagande de la mauvaise information de éventuellement l'erreur involontaire, on rend absolument pas service à ce qu'on veut combattre, et au contraire on amalgame tout ça dans une seule et même chose où en gros si quelque chose me déplaît, ne va pas dans mon cadre, alors je décrète que c'est une fake news et c'est nul et non avenu. Et c'est extrêmement dangereux comme concept.
Sébastien Diéguez.
Non, il n'a pas tort. Hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup de confusion en ce moment autour de ce concept de fake news. Il y a aussi beaucoup d'intérêt. Vous avez des... Voilà, j'ai un peu de la peine à garder un peu le fil de tout ce qui se passe en termes des rapports qui sont produits. Il y a des symposiums qui sont faits sur les fake news. Il y a des propositions qui sont faites sur les réponses à donner, comme ça. Donc on est un peu le nez dedans en ce moment. Et c'est sûr qu'il faudrait prendre un peu de recul pour voir un peu ce qui se passe. Maintenant, moi, ce que j'aime bien dans l'idée de fake news, peut-être que là, c'est peut-être une histoire de sensibilité à la signification de fake en anglais. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Moi, j'aime bien le prendre fake comme si vous avez des faux ongles, quoi, en quelque sorte. C'est fake dans le sens où c'est la production délibérée de quelque chose qui se fait passer pour une news.
Contrefaçon.
Exactement, une contrefaçon. Donc, prendre le concept de fake news sous cet angle-là, je pense, peut être utile. C'est dans le sens d'une entreprise de camouflage, en quelque sorte, et de déguisement, de fausseté, en quelque chose qui devrait être pris au sérieux. C'est très frappant de voir que beaucoup de fake news qui circulent choisissent des noms proches de sources réputées sérieuses et originales, comme les contrefaçons ont des logos ou des noms qui ressemblent à des marques prestigieuses.
Le bullshit, ça c'est pratiquement la fin de votre livre, le bullshit n'est que l'émanation paresseuse, bâclée et minable d'un talent pour le contrefactuel, la contrefaçon, que nous avons tous et qui pourrait, donc le bullshit, être mis à disposition d'entreprises créatives, originales et enrichissantes. Pour cela, l'imaginaire, la fiction et la raison ont des ressources propres largement suffisantes pour remettre cet ennemi commun, donc le bullshit, à sa juste place, ainsi que les bullshitters qui profitent depuis trop longtemps de leur confusion. Le bullshit est une facilité, mais pas une fatalité. Et donc la conclusion de votre livre, Sébastien Dieguès, appelle ou espère ou souhaite que de cette post-vérité, on fasse une post-fiction, c'est-à-dire que toute l'énergie et toute la créativité qui est mise en branle pour créer autant de bêtises autour de nous aujourd'hui soit utilisée de manière positive pour créer.
Oui, c'est ça. C'est le sentiment d'un immense gâchis, en fait. Toute cette histoire de bullshit, de post-vérité, me rappelle, en fait, un gros philosophe. C'est Gaston Lagaffe. Il y a une planche où Gaston Lagaffe cherche à éviter d'avoir à faire un boulot. Il court partout, il se planque, il va se cacher, il trouve toutes sortes d'astuces pour éviter de faire un travail. Puis tout à la fin, il est épuisé et il dit à son chef: bon, finalement, donne-le-moi ce boulot, ce sera moins fatigant de le faire que de chercher à éviter de le faire. Et des fois, il y a un tel effort qui est mis dans le bullshit, dans les fake news, dans tout ça, on se dit que ça pourrait être utilisé, parce que c'est très créatif et tout, on se dit que ça pourrait être utilisé pour produire de la vraie fiction, ce que j'appelle de la vraie fiction, en fait. Parce que je dis que si on estime qu'on est vraiment dans un monde de post-vérité, alors il me semble de facto, on est aussi dans un monde de post-fiction où non seulement on ne respecte pas la vérité, mais on ne respecte pas non plus la fiction et la puissance en fait de nos capacités imaginatives et artistiques. Et c'est vrai que tout ça se mélange un peu, le vrai, le faux, comme vous l'avez dit, hein, comment des séries peuvent finalement s'introduire, être répliquées dans la réalité, mais aussi comment bon nombre de fictions en fait ne font qu'exploiter des faits divers réels, avec le célèbre basé sur une histoire vraie, comme si c'était une sorte d'argument, alors que quand on va au cinéma, quand on lit un livre, c'est pas parce que c'est basé sur une histoire vraie, c'est parce qu'on veut exercer notre capacité d'imagination et cette chose étonnante où on peut suspendre notre jugement, suspendre notre crédulité pour entrer dans un monde totalement inventé. Cette faculté-là, je pense qu'elle sert aussi à protéger contre le faux, contre les manipulations. Quand on est vraiment investi dans quelque chose de créatif et d'imaginatif, ça nous protège aussi contre les manipulations et contre le faux. Et donc, c'est une sorte de pied de nez que je fais pour conclure le livre. Où c'est très bien, il faut faire du fact-checking, il faut enseigner l'esprit critique, toutes ces choses-là. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la raison raisonnante, la rationalité, la vérification et la science. Il y a aussi, d'autre part, notre capacité à imaginer du vrai faux, des choses que non seulement sont sorties de notre imaginaire, mais qu'on sait être fausses et qu'on respecte comme telles. Si on regagne ce respect à la fois pour la vérité et à la fois pour la fiction, moi, je pense que le bullshit, la post-vérité regagneront la place qui est à leur, quoi. C'est-à-dire une place mineure qui existera toujours, mais au moins pas l'espèce de diffusion massive qui risque de tout engloutir en ce moment.
Est-ce que vous avez un moyen de définir, donc pour conclure peut-être, ce qu'est le bullshit en quelques secondes ou en quelques mots? Est-ce qu'il y a quelque chose de palpable pour reconnaître le bullshit, le distinguer de formes alternatives de mauvaises informations, etc.?
Ça dépend si vous avez affaire à un bon ou un mauvais bullshitter, parce que le bon bullshitter dissimule totalement son bullshit et peut-être que ça demande beaucoup d'efforts de prouver que c'est un bullshitter. Mais en règle générale, le bullshit est bâclé et vous pouvez reconnaître le bullshitter à une forme d'aplomb qui est totalement dissocié du sérieux que ça demanderait normalement. Parce que le bullshit est la manifestation d'un narcissisme, d'une paresse intellectuelle aussi, qui est mêlée à une forme d'arrogance et d'aplomb qui est généralement, si on a l'œil, assez facile à détecter. En particulier dans le discours politique, dans la publicité, dans ce genre de choses qui sont quasiment immédiatement perçues comme du bullshit.
Donc c'est plus dans l'attitude de l'émetteur que dans le message lui-même que vous conseillez de chercher le bullshit ?
Oui, je pense qu'il y a une grande partie qui relève pas du verbal, qui est dans l'attitude presque corporelle du bullshitter, dans l'aplomb qu'il met à se faire passer pour quelqu'un de fiable et de sérieux, qui a quelque chose à dire. En principe, on devrait détecter assez rapidement qu'en fait, il a pas grand-chose à dire. Le problème, c'est que les bons bullshitters savent aussi jouer la modestie, ils savent aussi faire semblant d'hésiter, de pas être sûr de ce qu'ils disent, et vous pouvez jamais être sûr que vous avez pas affaire à un bullshitter. Et si ça se trouve, tout ce que je viens de vous dire, c'est du bullshit, je le sais pas moi-même, et c'est toute la difficulté du concept.
Chérie, coucou! Regarde le beau cadeau que j'ai eu à la caisse. Un couteau magique. Triple fonction pour râper, trancher, éplucher. Il va dans le lave-vaisselle et il est affûté à vie.
Waouh ! C'était pas tant !
C'est étrange.
Comment ?
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.
C'est pas impeccable.
Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles. Des mots fragiles, c'était trop beau.
Total bullshit, au cœur de la post-vérité, c'est donc un livre de Sébastien Dieguez publié aux Presses universitaires de France. Cette émission était signée Simon Decreuse et Ziad Malouf pour l'atelier des médias RFI. En coulisses, cette semaine, comme chaque semaine, il y avait Camille Deloche, Mathilde Saliou et Léo Caravagna. Salut à toutes et à tous.
Le président et moi n'avons qu'une seule demande à vous faire. Que ce soit un paquet ou une personne qui ne vous semble pas à sa place, nous aimerions que vous nous préveniez. Même si le vacarme est assourdissant ces derniers jours, le vacarme des journalistes qui s'attardent sur le passé, au lieu de s'alarmer sur la situation actuelle. Mon époux et moi souhaitons surtout vous protéger. Dans 2 semaines, à cette heure-ci, vous serez en train de vous diriger vers les urnes pour décider dans quel genre de pays vous souhaitez vivre. Vous devez mûrement réfléchir. Mais peu importe qui gagnera ces élections, c'est tous ensemble que nous devrons travailler. Mon nom est Claire Underwood et j'approuve ce message. On peut en faire une autre ?